Radio Barque, que nous reprenons l'antenne pour notre troisième partie avec notre invité Olivier Guiraud, où nous parlons des éoliennes flottantes de Port-la-Nouvelle, alias Éolmed. Alors on a évoqué toutes les, d'abord la naissance, la construction, l'installation. Une fois que ces éoliennes sont en place, elles produisent de l'électricité. Alors c'est un projet expérimental, mais qui, disons-le clairement, qui est là pour durer. Entrons dans les détails. Ces éoliennes sont censées être là pour combien de temps ? Administrativement,
nous avons un contrat de revente de l'énergie qui dure 20 ans, donc elles seront là au moins pour 20 ans, et nous avons une concession, donc la zone maritime qui nous est attribuée pour 40 ans. Si on peut le faire durer un petit peu plus, on le fera durer un petit peu plus, mais
au démarrage,
c'est au moins là 20 ans. Ouais.
C'est ça qui est prévu. Et alors, ça, c'est de l'administration. Mais quelle est la durée moyenne du matériel cette fois-ci, c'est-à-dire la résistance, le temps au bout duquel il faut prévoir de faire quelque chose? Alors, je ne sais pas quoi, mais faire quelque chose.
Alors, on ne va pas attendre 20 ans pour faire quelque chose. On va faire quelque chose un peu tous les jours pendant 20 ans, puisqu'on aura, on aura notre base de maintenance à Port-la-Nouvelle, avec des gens qui vont entretenir à la fois les lignes d'ancrage, le flotteur, vérifier que tout se passe bien, et l'éolienne en elle-même, notamment son fabricant, hein, Vestas, aura ses équipes à Port-la-Nouvelle. Ils vont nous bichonner notre machine pendant toute sa durée de vie. Et quand je dis bichonner notre machine, finalement, une éolienne, comment dire, c'est un peu comme une voiture, hein, tant que vous l'entretenez correctement, que vous changez les pièces, ça peut durer relativement longtemps. Après, le matériel vieillit, bien évidemment. À terre, on a bien vu ces projets qui duraient un petit peu plus de 20 ans, qui après ont été rééquipés, reformatés, repowerés. Voilà. Bon, on n'en est pas là. On est en train de finir le challenge de la construction. Maintenant, s'ouvre un autre challenge qui va être celui de l'exploitation. On a déjà beaucoup appris jusqu'à présent et on va encore beaucoup apprendre. Puisque des éoliennes qui flottent, en fait, en Europe et dans le monde, il n'y en a pas tant que ça.
Oui, vous disiez, Olivier Guiraud, au début, que c'était un projet, un phare, quoi, véritablement. Vous étiez pionnier en la matière, quoi.
Oui, ce sont des projets pionniers. Il n'en est pas moins que les technologies qui sont mises en œuvre, c'est des technologies qui existaient déjà par ailleurs,
oui.
Alors, soit déjà dérivées de l'éolien, soit dérivées des techniques de l'industrie du pétrole et du gaz, ce genre
mais
de choses.
Mais la notion de flotter en mer comme ça, c'est un nouveau défi quand même.
Mais absolument, la notion de faire flotter des éoliennes de grande dimension dans la mer, c'est quand même un challenge. C'est des choses sur lesquelles il y a des prototypes qui existent. Il y a quelques fermes pilotes. D'ailleurs, en Méditerranée, il y en a trois. Hein, donc, il y a la ferme Éolmed, et puis nos voisins EFGL, et un autre projet Provence Grand Large qui est...
Du côté de Fos.
Du côté de Fos, absolument. Donc, c'est nos projets pilotes à nous en France. Il y en a d'autres ailleurs en Europe, mais pas tant que ça. Mm-hmm. Pas tant que ça. Il y en a un en Écosse, il y en a un au Portugal, et puis je crois que c'est à peu près tout.
Oui, oui, oui. Voilà.
Donc bon, on a quand même encore un peu de choses à apprendre, un peu d'expérience à accumuler pour passer à la suite.
Affirmer. Alors donc, on ramène de l'électricité sur la Terre. Cette électricité, je ne vais pas dire à quoi elle sert, tout le monde le sait, mais elle peut servir aussi, paraît-il, à fabriquer de l'hydrogène par électrolyse. Et c'est prévu, je crois qu'il y a une usine qui est en construction à Port-la-Nouvelle également.
Oui, CAIR, dans ses autres activités, a une activité de production d'hydrogène vert.
Qui s'appelle IDOC, c'est ça ?
Alors, l'usine s'appelle IDOC. La division qui s'occupe de ça chez CAIR, c'est CAIR Hydrogène. Et donc, l'usine IDOC est en cours de construction. Elle est même en cours de finalisation. La première molécule d'hydrogène devrait être produite, là, début décembre.
Oui, c'est du peu. Là, on n'est plus dans la fiction.
Oui, non, on n'est plus dans la fiction. On est prêt à rentrer en production. Hein, c'est simplement qu'on va allumer l'électrolyseur qui va produire sa première molécule.
Voilà. Donc de l'hydrogène dite verte parce qu'elle ne pollue pas pour produire.
Alors surtout parce que l'hydrogène est produit à partir d'électricité renouvelable.
C'est ça qui lui vaut son label de verte. Et alors. Quid de cet hydrogène? Qu'est-ce qu'on en fait? À quoi ça va servir? Ou ça sert déjà?
Alors, ça sert déjà à plein de choses, mais notamment dans l'industrie, mais les débouchés.
Mais au point de vue de transport.
Voilà, le débouché essentiel de la production de Hydox, c'est un réseau de stations de service que nous avons développé, CAIR, en partenariat avec la région, l'AREC, l'Agence régionale climat énergie, qui nous a aidé à faire ces stations. Donc la première station est déjà presque terminée. Elle sera à Béziers, attachée à une flotte de bus de ville qui vont fonctionner à l'hydrogène. Et la deuxième station que nous allons faire, on a fait la pose de la première pierre au mois de juillet cette année. Elle sera donc ici à Port-la-Nouvelle. Lapsus. Elle sera donc ici à Narbonne, tout à fait à côté des bureaux de la CCI, à la zone industrielle Croix-Sud, je crois.
Oui. Donc l'hydrogène dans le transport, c'est quelque chose, là encore, qui est appelé à se développer.
Oui, donc petit à petit, certaines flottes, on va dire qu'on appelle captives, sont en train de s'équiper. Donc on parle des bus de ville, mais ça pourrait être des camions poubelles, par exemple.
Ça peut arriver sur des petits véhicules,
plus petits véhicules. Bon, après nous, on est plutôt sur le transport lourd, mais on aura des stations de service. Donc pourquoi pas avoir du développement. D'usage plus à l'échelle du particulier, puisque il existe déjà des voitures fonctionnant
à hydrogène. Voilà, bon, à savoir, et on en reparlera dans l'avenir immanquablement. Pour terminer cette émission, Olivier Guiroux, un petit mot sur l'environnement, l'écologie. Ces éoliennes flottantes, donc elles sont en mer, c'est, si je puis dire, un corps étranger qui est apporté en mer. Certains écologistes disent oui, ça va créer tout un tas de problèmes. Alors, parmi les problèmes les plus évidents, il y a la vie marine, les poissons, par exemple, et puis les oiseaux, les oiseaux migrateurs, les couloirs de migration, comme on dit. Là, j'imagine que, construisant ce genre de matériel, vous êtes sensibilisé à ces problèmes écologiques.
Oui, on est très très sensibilisé à, alors je dirais pas ces problèmes.
Oui, enfin, ou ces contraintes peut-être.
Je dirais ces questions. Donc évidemment, quand on fait de l'éolien, on est plutôt sur un sujet protection de l'environnement, on est sur des énergies vertes pour décarboner, on n'est pas là pour détruire la nature non plus.
Voilà, c'est pour ça qu'il faut rester cohérent.
Donc effectivement, dans le cadre des études d'impact, on a fait de nombreuses études, on a regardé comment ça se passait au niveau des migrateurs. Après, on a regardé un certain nombre d'espèces d'oiseaux spécifiques, dont deux qu'on a suivis particulièrement, que sont le puffin des Baléares et la sterne Kojek.
Le puffin des Baléares, c'est un joli nom, ça.
Le puffin. voilà, donc ce sont des oiseaux que nous avons ici. Et donc qu'on a suivi avec des balises, dont on connaît bien les habitudes. Après, pour ce qui est des grands couloirs de migration, cette fois-ci, c'est plutôt des études à l'échelle du golfe du Lion qui sont menées.
Oui, bien sûr.
La dernière qui vient juste d'être.
De paraître, enfin,
de paraître, c'est Migralion, effectivement, qui montre que sur les couloirs de migration, là où nous avons nos éoliennes, on est plutôt sur la bordure un peu diffuse de ce couloir, ce qui converge avec les observations que nous avons eues. Donc ça, c'est plutôt pour la vie au-dessus de la surface de l'eau.
Oui,
voilà. Parce qu'après, il y a la vie aussi en dessous de la surface
voilà,
de l'eau.
Voilà, un tout petit mot maintenant sur les poissons.
Voilà, on a les poissons.
Et les pêcheurs.
Mais alors, on parle des poissons parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des pêcheurs et parce qu'ils pêchent des poissons. Mais si on n'a pas de... En fait, tout ça, c'est l'environnement un petit peu global, quoi. Mmh. Si vous avez un environnement dégradé, vous n'avez pas de poissons, vous n'avez pas de vie, vous n'avez pas de poissons, vous n'avez pas de pêcheurs. Voilà. Donc tout ça, c'est un peu les mêmes revers du
oui, tout ça se
même,
rejoint au bout
d'une
du compte,
même médaille
dans la palette.
Donc là-dessus, ce sont des sujets qu'on a étudiés dans le cadre évidemment du projet sur la colonisation biologique des flotteurs, mais on s'est aussi projeté plus dans le long terme puisqu'on a financé une thèse, donc une thèse CIFRE sur le sujet pendant 3 ans avec du matériel d'expérimentation, des bouées qui ont permis de regarder un petit peu comment la vie pouvait venir sur des substrats durs à l'endroit où on allait mettre les flotteurs, dans quelle quantité, dans quelle qualité. Et ça intéresse aussi évidemment beaucoup les pêcheurs, puisque ils pensent que ces zones viendront être peut-être des réserves à poissons. Donc oui. Aujourd'hui, on n'a pas eu d'opposition du monde de la pêche, plutôt une démarche constructive, et je salue le président du comité régional des pêches, M. Bernard Pérez, qui a toujours été constructif, ainsi que les organisations professionnelles au Pays du Sud et Satoan.
Merci Olivier Guiraud d'avoir fait le tour relativement complet de ce fameux projet EOLMED. Et bien entendu, on invite les auditeurs à s'arrêter à Port-la-Nouvelle et prendre leurs jumelles ou aller voir de près ces choses aussi spectaculaires.
Ah oui, il faut venir voir. C'est
vraiment... Merci à vous. Notre prochain invité sera Alix Soler-Alcaraz, qui est le premier secrétaire fédéral du Parti Socialiste audois et qui sera candidat aux élections municipales à Carcassonne pour la liste Union de la Gauche. Merci aux auditeurs de nous avoir suivis. Je rappelle qu'après la diffusion en FM, cette émission sera mise en podcast sur le site grandsudfm.com. Merci Olivier Guéraud.
Merci Monsieur Jules.